Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelle devrait être la mission de l'école? Un texte de Suzanne G. Chartrand paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir. Suzanne G. Chartrand est didacticienne du français, retraitée de l'enseignement secondaire et universitaire et de l'éducation populaire. Voici son opinion. L'école québécoise nécessite une réforme en profondeur. D'une part, il faut prendre acte que le monde pose des défis gigantesques à la jeune génération. D'autre part, il y a de très graves problèmes à résoudre, dont la lourdeur de la tâche du personnel scolaire, la place démesurée de l'évaluation, la ségrégation scolaire, malencontreusement appelée école à trois vitesses, et, surtout, la perversion du sens de l'éducation à et par l'école. Pourquoi tous les enfants doivent-ils aller à l'école jusqu'à 16 ans? Voici comment le ministère de l'Éducation du Québec définit la mission de l'école dans son plan stratégique. L'éducation scolaire ne doit pas seulement contribuer à répondre aux besoins du marché du travail. Elle doit, d'une part, permettre aux individus d'acquérir des savoirs et de développer des habiletés et, d'autre part, former des citoyens cultivés, engagés, et responsable. L'école d'aujourd'hui arrive-t-elle à former ce type de citoyen, et ce, sans distinction d'appartenance sociale et culturelle? Des milliers de citoyens présents dans les forums « Parlons éducation » au printemps 2023 ont répondu « Non ». Dans les programmes de formation de l'école québécoise du préscolaire, du primaire et du secondaire des années 2000, on affirme que l'école a une triple mission déclinée en trois verbes. Instruire, socialiser, qualifier. Chacun ayant une importance égale. Cette façon de définir la mission de l'école a peu été remise en question sur la place publique. Une triple mission? Si chacun des objectifs est tout à fait valable, ce qui ne l'est pas, c'est de considérer qu'ils ont une valeur égale qu'aucun n'a préséance sur les autres, car la mission de l'école, c'est fondamentalement d'instruire. Mais l'instruction se fait nécessairement lors d'activités collectives en classe et hors classe. Socialiser est donc un corollaire d'instruire. N'oublions toutefois pas que la socialisation signifie aussi que les élèves doivent prendre conscience que les savoirs et les habiletés qu'ils développent à l'école sont le fruit de siècles de travail humain, qu'ils en sont redevables et qu'ils doivent le poursuivre. Quant à la mission de qualifier, définie comme l'obligation de l'école, d'assurer à tous la possibilité d'acquérir les moyens nécessaires pour mieux prendre leur place au travail, dans leur famille et dans la vie collective, elle est certes louable, mais elle ne peut pas être mise sur le même pied que celle d'instruire. La qualification n'est que la conséquence de l'acquisition des connaissances et le développement des compétences attendues. Mettre cet objectif sur le même pied qu'instruire est une conséquence de la vision néolibérale et capitaliste de l'éducation. Cela implique la place excessive que prennent les évaluations, empiétant sur le temps dévolu à l'enseignement et aux apprentissages. On accentue la compétition entre les élèves au détriment de la collaboration et de l'entraide. Or, la socialisation constitue aujourd'hui un enjeu de l'instruction, à l'école comme dans la société. Apprendre à penser. Instruire, terme remontant au XIIe siècle, signifie « former l'esprit d'une personne ». C'est donc amener les élèves à apprendre à penser, à raisonner, pas seulement à répéter ce qu'ils entendent, lisent ou pensent vrai. Dans un monde où les dépenses en marketing dépassent infiniment les sommes investies en éducation, où pullulent les fausses nouvelles, où se multiplient tant de propos discutables sur les réseaux sociaux, le développement d'un esprit critique s'impose plus que jamais. Il permet la construction de connaissances qui fondent la prise de décision par chaque élève. Il est fondamental et l'outillera tout au long de la vie. Les savoirs transmis sur les langues, les arts, les mathématiques, les sciences humaines et physiques s'actualisent dans des habiletés ou des compétences complexes. Ces dernières se développeront tout au long de la scolarité si elles font l'objet d'un enseignement rigoureux, systématique, faisant constamment appel à la réflexion personnelle et collective des élèves, à des échanges dans la classe et à un judicieux décloisonnement des disciplines scolaires. La pratique du dialogue philosophique en classe s'avère très féconde au primaire comme au secondaire. Elle devrait se développer dans toutes les activités scolaires et inspirer les interactions pour amener les élèves à apprendre à raisonner. Ce faisant, les élèves apprendront à vivre avec soi et avec l'autre, avec tous les autres, quelle que soit leur culture et leur capacité, ainsi qu'à collaborer avec leur père pour s'approprier les savoirs et les habiletés essentielles. Le ministère de l'Éducation du Québec doit cesser d'ajouter de nouveaux contenus au gré de problèmes sociaux, mais viser plutôt une approche interdisciplinaire. Comme on le sait, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Cela implique des programmes moins chargés, des approches pédagogiques différenciées, mais aussi des conditions d'apprentissage mieux adaptées, surtout des classes moins chargées et des espaces favorisant le bien-être de tous. De plus, l'école devrait devenir un lieu de rencontre et d'échange avec le milieu communautaire, artistique, professionnel, avec les communautés ethniques et autochtones des environs, en dehors des heures de classe. Vous écoutez « Quelle devrait être la mission de l'école ?» Un texte de Suzanne G. Chartrand paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir. L'instruction, mot perçu de plus en plus négativement car associé à des pratiques autoritaires et des contenus dogmatiques, doit être revalorisé. Il faut tout mettre en œuvre pour développer chez l'élève le désir et le plaisir d'apprendre. De là découlera inévitablement la volonté d'aller plus loin et donc de fournir des efforts soutenus pour apprendre et pour s'engager dans son parcours scolaire et dans la société. Et maintenant, abordons un aspect essentiel, mais négligé, voire ignoré, d'une instruction réussie. Les compétences langagières, piliers de la pensée. Penser avec sa langue. Outre des savoirs et des habiletés spécifiques, l'école doit développer les instruments de la pensée dont, en premier lieu, une langue, sans laquelle la pensée ne peut s'articuler ni être communiquée. Comme l'a admirablement expliqué le psychologue et pédagogue russe Lev Vygotsky, dans son ouvrage « Pensée et langage », publié en 1934, le langage n'est pas l'habit de la pensée, contrairement à l'adage de Boileau, mais est le fruit de la pensée intérieure. Même si, depuis des décennies, les écrits ministériels disent que le développement des compétences en français oral et écrit devrait être une responsabilité partagée par tout le corps enseignant du préscolaire au secondaire, il n'en est rien. Les conditions pour ce faire font défaut. D'abord, la formation du corps enseignant est totalement insuffisante pour que ses membres interviennent positivement auprès des élèves. Ensuite, il y a absence de précision sur les compétences langagières attendues dans tous les cours. Enfin, à défaut de rétroactions fréquentes et d'exigences précises, on connaît mal l'incidence de la qualité de la langue écrite dans les disciplines. La valorisation de la qualité de la langue française par des apprentissages conséquents devrait constituer une priorité absolue lors de la scolarisation obligatoire, car une compétence suffisante de la lecture, de l'écriture et de la communication orale constitue le socle de tous les apprentissages, de la socialisation et de l'insertion positive dans la société, ainsi que de la sauvegarde et de l'épanouissement du français au Québec. La langue comme outil. Utilisée à l'oral comme à l'écrit, La langue devrait être l'objet d'apprentissage spécifique dans toutes les disciplines et faire l'objet de rétroactions fréquentes, pour aider à son apprentissage et non pas nécessairement à des fins d'évaluation. La recherche Scriptura que nous avons menée en 2003-2007 a montré que la lecture et l'écriture de textes, même très courts, étaient rarissimes dans les cours de biologie et d'histoire au secondaire. Il faudrait faire découvrir aux élèves l'intérêt culturel et social de développer leurs habiletés langagières de diverses façons, notamment en travaillant la reformulation, la justification, l'explication dans les échanges entre pairs et avec le personnel scolaire, comme on le fait systématiquement dans le dialogue philosophique. Des projets culturels interdisciplinaires où la langue a un rôle majeur, des expos sciences, du théâtre, de la correspondance scolaire, des clubs de lecture sur des sujets historiques ou scientifiques, le repérage de formes géométriques dans une BD, etc., sont des occasions de développement des compétences langagières si on y consacre le temps nécessaire. On revient toujours à la même question, le temps. Il n'est pas infini, certes, mais il devrait être nettement mieux utilisé. On devrait compter moins d'évaluations, de contenus, de répétitions et d'activités qui ont fait la preuve de leur inefficacité. On devrait compter plus de réflexions, d'approfondissements, de lectures et d'écriture. On devrait lire aux élèves, les faire lire et échanger sur leur lecture pour, comme le dit Michel Desmurget en 2023, en finir avec le crétin digital. L'éducation scolaire ainsi comprise est la clé de l'émancipation des jeunes, soit l'affranchissement des servitudes qui leur sont imposées sans qu'ils en soient toujours conscients ou sans qu'ils aient la possibilité de s'en défaire. Eux et nous, adultes, devons nous approprier toutes les ressources culturelles disponibles pour infléchir le cours du monde avant de disparaître. C'était « Quelle devrait être la mission de l'école ?» un texte de Suzanne G. Chartrand paru le 4 janvier 2025 dans Le Devoir.
Comment fonctionnent les banques alimentaires ? Un texte de Fanny Arcan paru le 8 janvier 2025 dans La Presse. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à demander de l'aide alimentaire. Et cette tendance devrait se maintenir en 2025, selon Banque alimentaire du Québec. Comment les organismes s'organisent-ils pour combler ce besoin croissant? D'où viennent les denrées distribuées dans les organismes d'aide alimentaire? De manière générale, les 34 organismes membres de Banques alimentaires du Québec, BAC, comme Moisson Montréal et Moisson Estrie, approvisionnent les organismes d'aide alimentaire de chaque région. On en compte 1300 à travers la province. Le réseau de BAC a recueilli et distribué 542 millions de dollars en denrées durant l'année 2023-2024, selon son rapport annuel. La majorité, 65 % des denrées, venaient de petits et moyens agriculteurs ou transformateurs alimentaires qui fournissent moissons ou leur banque alimentaire régionale. Près du cinquième, 21 % des denrées distribuées, venaient de programmes de récupération de surplus dans les supermarchés et près du dixième, 9 % provenaient d'ententes entre BAC et de grands producteurs, comme les producteurs de lait du Québec et Norterra. Depuis la pandémie, BAC reçoit aussi l'aide financière du gouvernement provincial. Durant l'année 2023-2024, ces subventions ont couvert environ 3 % des achats de l'organisme, qui a également reçu 8,7 millions de dollars en dons d'entreprises et de particuliers. Qui peut demander de l'aide alimentaire? En principe, les banques alimentaires ont comme mission de venir en aide à toute personne qui ne mange pas à sa faim, mais chaque organisme a des critères d'entrée différents, explique Audrey Bernier, porte-parole de Moisson Montréal. Certains organismes demandent une preuve de revenu à leurs usagers, alors que d'autres desservent seulement la population d'un secteur en particulier. De plus en plus de banques alimentaires demandent aussi aux bénéficiaires de payer des droits d'entrée, souvent entre 5 et 7 $, souligne Martin Munger, directeur général de BAC. En général, ces frais permettent aux organismes de compléter leur offre, puisque les dons qu'ils reçoivent ne suffisent pas. L'an dernier, le nombre de demandes d'aide alimentaire auxquelles BAC a répondu a augmenté de 13%, précise le directeur général. La réalité des organismes sur le terrain est très difficile en ce moment, rappelle Martin Munger. La demande est bien plus élevée qu'en 2019, mais on a à peu près les mêmes ressources qu'avant. D'autres banques alimentaires, comme les Pirates Verts, dans Merci Hochelaga-Maisonneuve, n'imposent aucun critère d'entrée à leurs bénéficiaires. C'est vraiment à la discrétion des organismes, ajoute Audrey Bernier. Quels sont les types d'aides alimentaires offerts par ces organismes? L'aide alimentaire peut prendre plusieurs formes. Certains organismes offrent notamment un service de comptoir alimentaire, des épiceries communautaires, où des personnes en difficulté peuvent faire leurs courses gratuitement ou à prix modique. Des organismes offrent également un dépannage d'urgence, soit des repas et des aliments gratuits pour ceux qui peinent à joindre les deux bouts. Ça aide les gens à finir le mois en leur permettant d'aller chercher des items qui leur manquent, explique Audrey Bernier. Les denrées alimentaires distribuées dans le réseau BAC servent également à préparer les repas complets servis dans les organismes pour personnes en situation d'itinérance, comme l'accueil Bonneau ou dans les popotes roulantes. De plus, les banques alimentaires fournissent des collations à des organismes qui desservent les plus vulnérables, comme des camps de jour pour les nouveaux arrivants ou des groupes pour briser l'isolement chez les aînés. Pour être dirigés vers la ressource qui leur convient le mieux, les personnes en besoin d'aide alimentaire peuvent s'informer auprès du 211, souligne Audrey Bernier. C'était « Comment fonctionnent les banques alimentaires? Un texte de Fanny Arcan, paru le 8 janvier 2025 dans La Presse. »
Le peintre des athlètes. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 16 janvier 2025 dans La Presse. À peine a-t-on mis le pied dans l'atelier de Didier Correa que notre regard tombe sur les splendides toiles accrochées au mur. Patrick Roy, Sidney Crosby, Georges St-Pierre, Cole Caulfield, Carey Price. Certaines sont même autographiées par leur sujet. Difficile de croire qu'il y a 6 ans à peine, l'artiste autodidacte n'avait jamais touché à un pinceau. L'atelier de Didier Correa est situé dans le sous-sol de sa demeure, à Sainte-Anne-des-Lacs. Au bout du couloir, dans une grande pièce, est aménagé son espace de travail. C'est là qu'il passe ses journées, pinceau à la main, à son plus grand bonheur. Un bonheur qu'il n'avait jamais même imaginé. Enfant, Correa dessinait au crayon à mine pour le plaisir. Je dessinais tout le temps des portraits des joueurs de hockey. Je tripais là-dessus, nous raconte-t-il. À 16 ans, il a délaissé cette passion afin de se tourner vers un autre passe-temps, la musique. Au fil des années, le Québécois a suivi un chemin pédagogique classique, entreprenant des études en administration des affaires avant de devenir représentant commercial pour une entreprise de maisons pré-usinées. Il s'y est plu pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il sente qu'il avait fait le tour. C'est lors d'un voyage avec des amis qu'il a réalisé qu'il n'avait plus de passe-temps. Les blessures l'avaient forcé à arrêter le hockey. Il regardait moins de sport et faisait moins de musique. De retour au Québec, Correa a parlé de ses tracas à sa femme, Andréanne Champagne. « Quand tu étais petit, tu dessinais », lui a-t-elle lancé en guise d'idée. À l'âge de 32 ans, donc, le représentant commercial a sorti son crayon à mine et feuilles de papier. Je me suis mis à dessiner et j'ai capoté à quel point j'ai eu du fun. Étonnamment, il s'était amélioré. Mon cerveau a continué à s'améliorer sans en faire. Mon œil, ma précision. Il s'est découvert une passion. Et pas qu'un peu. Un don insoupçonné. Correa a dessiné. Encore et encore. Plusieurs de ses amis, impressionnés par son talent, lui demandaient des portraits de leurs enfants. Au bout de 3 mois, il avait le vif sentiment qu'il pouvait faire plus encore, aller plus loin. J'avais tellement de demandes pour du crayon que je me disais « je pourrais essayer la peinture ». Même s'il n'avait jamais peint de toile de sa vie, il a tenté le coup. « Ça a donné ça ?» dit-il en nous montrant un tableau dont il nous avait parlé plus tôt, accroché à l'entrée de l'atelier. Le portrait de Jimi Hendrix est absolument saisissant. Aujourd'hui, l'artiste porte ce portrait sur son bras droit, question de se souvenir de l'œuvre qui a changé sa vie. « C'était juste pour m'amuser, dit-il, mais j'ai tellement trippé pendant que je la faisais. Mes chums ont vu ma toile et ont dit « Ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux t'en commander une ?» J'ai répondu « OK, mais je ne sais même pas peindre. » Pour une toile, Didier demandait 500 $. Dans le temps de le dire, les commandes se sont mises à affluer. Quand je publiais mes toiles en ligne, je recevais 3 ou 4 messages privés de gens qui disaient « J'en veux une ». Rapidement, en 3 mois, j'avais tellement de commandes à faire que j'ai lâché ma job. Au départ, sa décision de quitter son emploi était temporaire. Il voulait surtout prendre une pause, le temps de mener à bien les commandes reçues. Le but n'était pas de devenir artiste, ce n'était pas une avenue pour moi. Inutile de dire que Didier Correa n'est jamais retourné travailler comme représentant aux ventes. Vous écoutez « Le peintre des athlètes », un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 16 janvier 2025 dans la presse. « Je suis un artiste peintre ». Le sympathique artiste, parce que oui, il peut désormais porter ce titre, était d'abord inquiet. Après tout, sa femme et lui ont un enfant de 10 ans, le petit Élie. Correa craignait de ne plus pouvoir contribuer financièrement autant qu'il le faisait auparavant. « Je me sentais mal de faire payer ma famille juste parce que moi j'avais le goût de lâcher le travail, de juste m'amuser et suivre ma passion. Je lui avais dit « Moi, que je sois à la maison ou en appart, je m'en fous », renchérit sa femme. « Je veux être avec mon fils et mon mari. » On s'est fait une promesse, à nos tout débuts, qu'on n'aurait jamais l'impression d'aller faire du temps à la job. Correa n'attendait que cette approbation. Quand j'ai vu qu'elle était de mon bord, qu'elle me poussait à le faire, je me suis dit « OK, il n'y a rien qui me retient », relate-t-il. « Je me suis comme assumé. Je suis un artiste peintre. » Au bout d'un an, l'homme de 38 ans s'est retrouvé avec tellement de commandes que l'attente était de 3 ans. La charge de travail était telle que sa femme a quitté son emploi de travailleuse sociale pour s'occuper à temps plein de la gestion de tout ça. Je capotais. Tous les 2 ou 3 mois, j'augmentais mon prix, puis je planifiais 2 ou 3 autres mois. À un moment donné, je me disais, il n'y a pas de fin à ça, ça n'a pas de sens. Des commandes des athlètes. Dans les 2 premières années, Didier Correa peignait surtout des acteurs et des musiciens. Puis, il a commencé à recevoir des commandes pour des toiles d'athlètes de la part de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ou des athlètes eux-mêmes. Thomas Plekanec, par exemple, lui a commandé 2 toiles qui ont été livrées en République tchèque. Éric Gilina, qui a disputé 189 matchs dans la LNH, lui a pour sa part demandé une toile de lui quand il a sauté sur la patinoire pour son premier match avec les Devils de New Jersey. C'est ça que j'aime avec le sport. Ce sont des moments tellement marquants. Et sur une seule photo, on dirait que tu comprends tous les efforts et les sacrifices, les hauts et les bas qu'un athlète peut vivre, raconte Correa. Ça me fait vraiment triper de faire une toile comme ça. La peinture, c'est magique. Tu fais des affaires et, à un moment donné, ça devient réel. Il y a une émotion. Quand je fais les yeux, quand je fais les points de lumière, ça me fait un feeling. Au fil des mois, Didier Correa a peint nombre d'athlètes, notamment Georges Saint-Pierre, qui est allé autographier chacune des 20 impressions de la dite toile. Ça a été un moment assez marquant dans ma carrière, se souvient-il. Ça a beaucoup fait jaser. Quand Andréanne Champagne aborde le sujet de la rencontre de Dougie Hamilton avec nous, son mari sourit de toutes ses dents. « As-tu vu ses yeux ?» lâche Andréanne. Hamilton a communiqué avec Didier quelques fois avant de lui passer sa commande il y a 5 ou 6 mois. Il souhaitait une toile de sa célébration quand il a inscrit son 20e but lors de sa saison la plus productive en carrière. Correa et sa famille ont livré la toile à Hamilton en main propre après un match des Devils au New Jersey en décembre dernier. On a été super bien reçus. Il n'arrêtait pas de me faire sentir qu'il était tellement énervé d'avoir la toile. On dirait que plus je sens que le client est excité, plus ça m'excite. Hamilton a invité la famille dans le vestiaire des Devils. En plus de lui offrir toutes sortes de cadeaux, une rondelle, un chandail, un bâton. C'était juste magique, lâche l'artiste. Ad vitam aeternam. Pour une toile, Didier Correa travaille 8 heures par jour pendant 5 jours. Actuellement, ses prochaines disponibilités sont en 2026. Sur sa page Instagram, il est suivi par plus de 10 000 personnes, dont de nombreux athlètes professionnels. Correa n'aurait jamais pensé qu'il vivrait un jour de son art. Le voilà aujourd'hui devenu le peintre des athlètes, même si son humilité l'empêche de s'autoproclamer ainsi. Depuis 6 ans, chaque année s'avère encore plus grandiose que la précédente, et chaque fois que Didier peint une toile d'athlète, ça vient le chercher plus qu'autre chose, la paye émotionnelle. Quand le client reçoit l'œuvre, vaut autant sinon plus que la pécuniaire. Honnêtement, je n'arrêterai jamais, laisse-t-il tomber. Je veux juste que, à la fin, le client trippe. Et moi aussi. J'adore ma vie. C'était Le peintre des athlètes, un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 16 janvier 2025 dans La Presse.